Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Coucou. En mai 1969, deux corps de jeunes femmes remontent à la surface, repêchés par un homme le long d'une rivière dans l'état d'Oregon. La macabre découverte va mettre les enquêteurs sur la piste d'un tueur en série qui, depuis son plus jeune âge, traque les femmes portant de belles chaussures pour en abuser et jouer avec leur corps. Cet homme, il s'appelle Jerry Brudos et est aujourd'hui connu comme le tueur fétichiste qui pendant plusieurs années a berné les psychiatres et les autorités qui l'ont laissé totalement libre alors qu'il suspendait ses victimes dans son garage et les électrocutait pour réchauffer leur corps. Mais là, je vais un peu vite. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le Max Guys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série, et cette fois-ci on s'attaque à un sacré personnage, Jerry Brudos, dit le tueur fétichiste. Lui, sa motivation, c'était les chaussures à talons et les pieds, à tel point qu'il a créé dans son garage une espèce d'antre de tueur en série pour pouvoir conserver le plus longtemps possible avec lui les femmes qu'il enlevait et disposait de leurs pieds. Il a même congelé certains pieds pour vous dire à quel point, lui, c'était vraiment son truc et c'était sa motivation de tueur en série. Je vous en dis pas plus, vous allez voir que c'est un sacré personnage, horrible bien évidemment. Attention, parce que ça va sentir les pieds et la chaussette. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Découverte de l'hécatombe. Notre histoire prend place aujourd'hui à Salem dans l'Oregon, qui n'a rien à voir avec Salem dans le Massachusetts, ville de fous furieux qui a condamné à mort des pauvres femmes accusées de sorcellerie au XVIIe siècle. À Salem dans l'Oregon, un malaise s'est installé. Depuis l'été 1968, des jeunes femmes se volatilisent sans que personne ne réussisse à les retrouver ni à comprendre ce qui a bien pu se passer. Une vendeuse en porte à porte, une jeune femme en panne sur le bord de route, ou bien même une adolescente qui rentre chez elle après une après-midi dans une zone commerciale. Personne n'imagine une seule seconde qu'un tueur en série puisse être en train de sévir dans le coin. Pas même les enquêteurs qui, pour le moment, n'ont retrouvé aucun corps jusqu'au 10 mai 1969. Date à laquelle un pêcheur remonte un grand sac poubelle à la surface le long de la rivière Long Tom. Dans ce sac poubelle, il découvre un corps, celui de Linda Sally, une jeune femme de 22 ans, disparue à la fin du mois d'avril. Tout le monde la cherche en ce moment. Les autorités sont prévenues, le cours d'eau est fouillé. On découvre rapidement un deuxième corps, celui de Karen Sprinker, disparue à la fin du mois de mars. Horreur absolue, ses seins ont été découpés. Les femmes semblent avoir subi des chocs électriques. Le mauvais état des corps ne permet pas de faire une autopsie poussée, mais la cause de la mort semble être un étranglement. Il n'y a pas d'impact de balle ou de plaie. Problème pour les autorités qui comprennent assez rapidement qu'ils ont sûrement affaire à un tueur en série, même si le terme en 1969 n'est pas encore bien ancré, c'est que la rivière Long Tom, c'est ce que l'on appelle un afflux de la rivière rivière Willamette, une rivière secondaire qui puise sa source d'une plus grosse rivière, pour faire plus simple. Donc, les corps ont pu être jetés n'importe où, même des kilomètres plus loin, avant d'arriver ici. Si un taré opère dans le coin et qu'il jette ensuite ses victimes dans la rivière, il peut être dans le village à 10 km ou dans la ville à 200 km de là. Craignant que d'autres corps n'apparaissent et que l'affaire devienne médiatique, les enquêteurs vont se focaliser sur Karen, qui était une étudiante de l'université d'État d'Oregon. Elle avait pas mal d'amis, était une fille populaire, donc quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Et il faut pas longtemps aux enquêteurs pour apprendre que depuis ce mois de mai, un homme s'amuse à appeler les étudiantes sur leur ligne téléphonique d'appartement pour leur proposer des rendez-vous. Il dit être un vétéran du Vietnam cherchant à s'intégrer. Alors peut-être que le type n'a rien à voir avec les corps découverts dans la rivière, surtout que Karen a disparu à la fin du mois de mars et que les rendez-vous et les appels commence vers le mois de mai. Mais bon, les enquêteurs se penchent sur cette piste, histoire de pas passer à côté d'un truc. Une étudiante ayant déjà eu un rendez-vous avec cet inconnu accepte de le recontacter, malgré le fait qu'il l'ait mise mal à l'aise la première fois, puisqu'en la raccompagnant chez elle après un passage au restaurant, il lui a dit « Comment tu sais que je te ramène vraiment chez toi et que je t'amène pas à la rivière pour t'étrangler ?»
Sacré blagueur, hein. Un deuxième rendez-vous est pris pour l'arrêter.
Au milieu du mois de mai 1969, les enquêteurs de l'Oregon interpellent l'homme qui donne rendez-vous aux étudiantes du campus. Il ne cherche pas à s'enfuir, ne sort pas d'armes et n'a rien du tout sur lui. Par précaution, on le prend en photo et les enquêteurs relèvent son identité. Cet homme, il s'appelle Jerry Brudos. Il va prochainement avoir 30 ans, est électricien, marié, 2 enfants. Pas du tout le profil du tueur en série pervers recherché actuellement. Sauf que, de retour à la brigade, les enquêteurs continuent de fouiller et se rendent compte que d'autres tentatives d'enlèvement ont eu lieu dernièrement. L'une des victimes qui a réussi à s'enfuir est recontactée. On lui montre le visage de Jerry Brudos et elle l'identifie formellement comme le type qui a tenté de l'enlever le mois dernier, en avril. Le 29 mai, une perquisition est organisée au domicile de Jerry Brudos. Les enquêteurs s'apprêtent à y découvrir l'horreur absolue. L'antre d'un homme fétichiste des pieds et des chaussures à talons qui a commencé pendant l'adolescence à étrangler pour voler ses fameuses chaussures, puis à l'âge adulte, il s'est mis à aller plus loin dans l'horreur, emmenant des femmes dans son garage pour les utiliser dans le seul but d'assouvir ses fantasmes les plus déviants. On retrouve dans son garage des photos sur lesquelles des femmes sont suspendues dans toutes sortes de positions. Dans son congélateur, un pied fraîchement conservé, dans divers placards, de la lingerie appartenant à ses victimes et même des trophées faits en résine qui ont été coulés grâce à de vraies paires de seins découpés sur le corps des victimes. Arrêté, Jerry Brudos décide de passer aux aveux et raconte tout ce qui l'a mené à devenir ce personnage fétichiste qui enlève des femmes pour les mettre dans son garage. Et comme toujours, pour bien comprendre toute l'histoire d'un tueur en série, il faut remonter le temps et aller voir dans l'enfance. L'enfance d'un fétichiste. Jerry Brudos, né le 31 janvier 1939 à Webster, dans le Dakota du Sud. Il est le deuxième enfant de ses parents, Henry et Aileen Brudos, qui ont déjà un fils aîné, Larry.
Bon, vous connaissez la phrase à force, l'enfance de Jerry, elle est catastrophique, parce que il est le deuxième enfant de la famille Brudos, et Aileen, sa mère, voulait une fille. Donc, quand Jerry s'est pointé à la maternité avec son petit zigoui, ça a fait pas mal de déçus, et je dis pas ça en mode « bon voilà, c'est bon, ils ont eu un garçon, mais c'est pas grave, ça reste leur fille ». Ah non, non, Aileen ne va pas du tout aimer Jerry, qui est donc son deuxième garçon, elle ne va lui donner aucun amour tout au long de son enfance, juste parce qu'elle voulait une fille.
Aileen ne montre
aucune preuve d'amour envers Jerry. Son préféré, c'est Larry, le fils aîné. Jerry, c'est un accident, elle voulait une fille, et lui fait bien comprendre à tel point que dès l'âge de 5 ans, Jerry va vouloir ressembler à une fille pour avoir enfin un peu d'amour. Il va par exemple découvrir l'existence de chaussures à talons qu'il inscrit donc dans sa tête comme objet pour fille. S'il en porte, sa mère va forcément l'aimer. Bon, en voyant son fils se balader en chaussures à talons, Aileen va péter un câble, elle aurait voulu une fille, mais si en plus elle doit se taper un garçon maniéré, c'est le pompon. Elle interdit à Jerry de porter ses talons, sauf que le garçon recommence toujours pour avoir l'attention de sa mère. Aileen les met donc en hauteur, mais Jerry ne lâche pas l'affaire, il réussit à les attraper de nouveau et se rebalade avec dans la maison. Un jour, dans une crise de rage, pour que son fils arrête d'être obsédé par ses talons, Aileen fera un grand feu dans le jardin pour brûler toutes les paires de la maison. Humilié par sa mère, toujours mal aimé, Jerry va peu à peu développer une sorte de fétichisme pour les chaussures à talons. Ça lui est interdit, alors ça l'attire. Au moment où il entre à l'école primaire, la famille déménage en Californie. C'est lourd dans une crise de rage pour que son fils arrête d'être obsédé par ses talons. Aileen fera un grand feu dans le jardin pour brûler toutes les paires de la maison. Humilié par sa mère, toujours mal aimé, Jerry va peu à peu développer une sorte de fétichisme pour que sa prof vient en talons. Elle apporte une seconde paire si elle a besoin de rechange. Alors un jour, devenu complètement fou à la vue de ses talons, Jerry décide de voler la paire de rechange de sa prof et de la planquer dans l'école pour que le soir, avant de quitter l'établissement, il puisse les récupérer et les ramener chez lui. Bon, les chaussures vont être retrouvées avant la fin de la journée. Sous la pression, Jerry va finir par avouer que c'est lui le voleur de chaussures à talons. Et l'affaire s'arrête là. Et c'est normal, Jerry, c'est un gamin à l'école primaire. On prend ça pour une bêtise, c'est pas du tout du fétichisme à son âge. Et pourtant si, ben, ça commence. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'un de vos collègues vous vole votre bottine ou votre chaussure à talons dans le vestiaire, vous vous doutez bien que c'est pas juste comme ça pour vous embêter. Hein. Il a envie de la renifler le soir dans son lit. Mais Jerry, on n'y pense pas à tout ça, c'est normal, c'est un gamin une fois de plus. Et à l'adolescence, ce fétichisme qui s'est développé lors de l'enfance va peu à peu se lier à un problème sexuel lorsque les hormones se développent. Si au début Jerry ne faisait que voler des paires de chaussures qui l'attiraient, il va également être attiré par les femmes qui en portent, comme cette jeune voisine qui un jour vient manger avec ses parents chez la famille Brudos. Mal à l'aise en présence de Jerry, l'adolescente va demander à quitter la pièce pour aller se reposer dans une chambre de la maison. Elle s'en va, se met dans une chambre et Jerry, à son tour, demande à quitter la table. Il entre dans la chambre dans laquelle l'adolescente est allongée et va se mettre, comme ça, à lui caresser les pieds. Bien évidemment, l'adolescente se réveille, dit à Jerry de la laisser tranquille et elle s'en va. L'incident s'arrête là, personne ne sera jamais au courant de rien. Pas besoin de vous préciser qu'elle n'a plus jamais remis un pied chez la famille Brudos. C'est le cas de le dire. Peu à peu, Jerry va aussi commencer à développer des crises. Parfois, son cerveau lui fait mal, il a des migraines à en hurler pendant des heures, mais ses parents ne font pas plus attention que ça, hein. C'est pas un gamin aimé, donc qu'il ait mal ou pas, ça finira bien par lui passer. On lui donne quand même une paire de lunettes qui ne sert à rien, la douleur ne vient pas des yeux. Et je vais faire mon expert de comptoir PMU, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai remarqué en écrivant toutes ces HVF spéciales tueurs en série qui sont dispo sur la chaîne, que énormément d'entre eux sont victimes de migraines pendant l'enfance ou pendant l'adolescence. Et j'ai trouvé aucun article scientifique parlant de ces faits, mais c'est comme si une maladie mentale se développait justement pendant ces migraines qui faisait d'eux plus tard des tueurs en série. Alors, une fois de plus, il n'y a aucun texte scientifique sur le sujet, mais je sais pas, ça commence à m'interpeller. J'ai l'impression que beaucoup de tueurs en série sont victimes de migraines, que c'est pas du tout pris au sérieux, et qu'ensuite, bah, ils se mettent à tuer des gens. Voilà. C'est mon analyse, ça vaut absolument rien, je le redis, il n'y a aucun texte scientifique dessus, mais si on pouvait se pencher sur le sujet, ça voudrait peut-être dire que, bah, les futurs tueurs en série peuvent être détectés pendant l'enfance et soignée, ce qui me mettrait donc au chômage.
Pourquoi j'ai dit ça ?
Pendant son adolescence, Jerry va aussi se mettre à errer seul la nuit. Ses parents ne s'occupent pas de lui, donc ils s'en foutent de savoir ce qu'il fait. Il se balade dans son petit coin paumé et se met peu à peu à voler des sous-vêtements qui, en Californie, peuvent sécher tout au long de l'année dehors sans problème, contrairement à moi, en Picardie, qui est obligé de foutre mes chaussettes et caleçons à sécher sur un étendoir au milieu du salon parce qu'il fait 2 degrés dehors. Bref, Jerry vole toutes sortes de sous-vêtements et les ramène chez lui. Il passe des nuits entières à les observer et à dormir avec. Les voisins de la famille Brudos vont soupçonner le garçon d'être à l'origine des disparitions de sous-vêtements parce que justement les filles du coin le décrivent comme un gars bizarre, mais personne n'osera vraiment le confronter. C'est un peu malaisant comme sujet à l'époque. À côté de ça, il se met aussi à collectionner les photos de charme dans sa chambre. Pour être plus précis, l'histoire officielle nous dit que c'est le frère de Jerry qui avait ce genre de photos dans sa chambre et que Jerry va être surpris par sa mère en train de les regarder. Donc, elle va penser que c'est son pervers de gamin qui les a ramenés à la maison. Jamais Larry n'aurait fait ce genre de choses. Aileen va alors vider tout le contenu de la boîte à la poubelle en traitant son fils de tous les noms possibles et imaginables. Pour l'humilier encore plus et lui faire comprendre qu'elle ne veut pas que sa sexualité et son attirance pour les femmes se développent dans cette maison qui doit rester pure, loin de la perversité des garçons, Aileen va faire laver à Jerry ses caleçons sales. Mais qu'elle le veuille ou non, Jerry grandit et atteint l'adolescence. À l'âge de 16 ans, il se met un objectif en tête, trouver une petite amie et avoir des relations avec elle, qu'elle le veuille ou non. Jerry, par précaution au cas où la fille à qui il va donner rendez-vous ne veut pas de relation avec lui, va aller en forêt, creuser une sorte de cache dans laquelle il va pouvoir mettre la fille pour abuser d'elle. C'est au moment où Jerry entre définitivement dans l'adolescence, qu'il avance vers l'âge adulte, que son comportement perturbant et obsessionnel envers les femmes va commencer à se manifester de manière violente, marquant les prémices de sa future histoire de tueur en série. Puisque comme beaucoup de tueurs en série avant lui, il va d'abord laisser repartir ses victimes en vie avant de comprendre son erreur. Les prémices du carnage. Au cours de l'été 1955, Jerry ne tient plus. Il a repéré depuis quelque temps une voisine âgée de 18 ans et il a bien envie de sortir avec elle. Problème, il sait pas comment faire pour engager la discussion ni pour se faire remarquer. Ils ne prennent pas le même bus, ne sont pas dans la même école, n'ont pas du tout les mêmes amis. Alors Jerry va faire la seule chose qu'il maîtrise, voler les sous-vêtements de la voisine. Très bizarre comme technique d'approche. Une fois les quelques culottes emportées, Jerry va revenir chez cette voisine pour y déposer une lettre et se faire passer pour un agent de police en donnant rendez-vous à la voisine chez lui pour identifier les sous-vêtements volés qu'il aurait retrouvés comme ça par hasard. L'adolescente de 18 ans, honteuse du vol de ses sous-vêtements, ne va rien dire à personne à propos de ce rendez-vous. Elle va se rendre chez Jerry, qui n'a pas du tout pour objectif de faire connaissance. Il va tendre un piège à sa voisine sur le chemin qui mène jusque chez lui et la faire chanter. Il va lui dire « Je te rends tes sous-vêtements si tu acceptes de poser nu pour moi. Si t'acceptes pas, je les montre à tout le monde. » Et là, le chantage paraît stupide pour nous. Enfin, je veux dire, moi, si quelqu'un vient dans mon jardin, me vole mes caleçons et menace de les montrer à tout le monde, ben je m'en fous. Mais en 1955, les mœurs sont pas du tout pareilles, puisque on parle de lingerie. L'adolescente de 18 ans, elle est pas en panique parce que Jerry lui a volé la grosse culotte de mémé. À cette époque, c'est pas que c'est la honte de porter ce genre de choses à son âge, mais si Jerry montre qu'elle a de la lingerie, elle va être vue comme une traînée par tout le monde. Toutes les filles vont lui cracher dessus et tous les garçons vont venir toquer à sa porte pour sortir avec elle. Alors, elle se déshabille devant l'objectif de Jerry qui prend des photos, lui rend ses sous-vêtements, puis s'en va. Aucune plainte ne sera déposée et pendant plusieurs mois, Jerry va se contenter de ses photos. D'autres incidents vont avoir lieu, dont l'un pendant lequel Jerry aurait attiré une fille chez lui, toujours avec le même stratagème, le vol de sous-vêtements, puis la lettre, avant de lui faire du chantage, mais dans sa propre chambre. Pendant quasiment une année entière, Jerry va se contenter de toutes ses photos. Il continue de voler des sous-vêtements, bien évidemment, les porte même de temps en temps pour voir ce que ça fait. S'il avait été une fille, comme sa mère l'a toujours voulu, est-ce qu'il aurait apprécié en porter ? Ça le dérange pas trop, la lingerie volée à la voisine est plutôt confortable. En 1956, Jerry se rend compte que les photos de ses premières victimes et le vol de sous-vêtements ne lui suffisent plus. Jerry Brudos, à l'âge de 17 ans seulement, repart littéralement à la recherche d'une nouvelle victime. Personne ne voit à quel point il est dangereux. Ses parents l'ont complètement abandonné et le laissent grandir dans son coin. Alors, en avril, il repère une adolescente de son âge qui est en train de rentrer chez elle. Il la suit jusqu'au moment où elle arrive près d'une grange. Moment parfait pour frapper. Jerry sort un couteau qu'il avait préparé et caché dans son jean. Il arrive rapidement à hauteur de l'adolescente et lui ordonne d'entrer dans la grange. Sauf que contrairement à ses autres victimes, celle-ci se débat. Jerry panique et se met alors à la brutaliser. C'est la toute première fois qu'il frappe et blesse physiquement une femme pour la faire taire. Il passe une étape. Par chance, un couple d'une ferme voisine ayant entendu les hurlements va intervenir à temps. En ouvrant les portes de la grange, le couple découvre alors une scène d'horreur. Jerry est au-dessus de sa victime qui est en sang, complètement traumatisée. L'adolescente n'arrive même plus à parler. Le pervers tente de s'en sortir en disant
« Un cinglé l'a attaqué. Je suis passé en voiture et je me suis arrêté pour aider. Elle le combattait quand je suis arrivé et il est parti là-bas, à travers le champ. »
Voyant l'adolescente faire non de la tête, la femme du fermier va retourner chez eux pour donner l'alerte, pendant que l'homme reste avec Jerry et sa victime à l'intérieur de la grange. Placé en état d'arrestation, Jerry va rapidement avouer et dire que oui, il a emmené la fille dans la grange, l'a frappée, voulait la déshabiller pour prendre des photos, mais promis, il recommencera plus et il a jamais fait ça avant. Par précaution, les agents mis sur l'affaire vont fouiller la chambre de Jerry et découvrir les photos de ses précédentes victimes et les sous-vêtements volés. Il va dire que c'est un ami qui lui a donné tout ça, il sait pas c'est qui les filles sur les photos. Vu ce qu'il vient de se passer, personne n'y croit. Jerry est classé comme déviant et il est envoyé se faire soigner en psychiatrie.
Ce qui est une bonne chose, Jerry va pouvoir être soigné en hôpital psychiatrique, ensuite il va être suivi tout au long de sa vie et l'HVF s'arrête là. Plus aucune femme qui ne croisera sa route ne sera en danger. Pas vraiment.
Jerry Brudos, en hôpital psychiatrique, n'est pas du tout classé comme dangereux par les médecins. Oui, bon, ok, il fait des plans pour piéger les adolescentes et les prendre en photo. La dernière fois, il en a coincé une dans une grange avec un couteau et lui a pété le nez quand il s'est mis à hurler. Mais c'est l'adolescence, les hormones, ça joue beaucoup. Il va apprendre à se contrôler avec le temps. Un psychiatre note le 16 avril 1956. Le garçon ne semble pas souffrir d'une maladie mentale grave. Le flux de pensée est pertinent, logique et cohérent. Il semble être quelque peu déprimé à l'heure actuelle. Il sent qu'il a parfois du mal à contrôler son humeur, mais que ça ne lui a jamais causé d'ennui, sauf la dernière fois. Il dit qu'il éprouve un certain sentiment de culpabilité pour avoir eu des ennuis, mais ne se sent pas particulièrement coupable d'avoir pris les photos. Intellectuellement, il fonctionne bien. Et quand je vous dis qu'à l'époque on dit à Jerry que c'est normal, c'est l'adolescence, c'est pas une blague, puisque ses agressions, ses abus, sa perversité sont diagnostiqués par le terme réaction d'adaptation de l'adolescence avec déviation fétichisme.
Tout va bien dans le meilleur des mondes. Toute cette affaire n'est qu'une réaction d'adaptation à l'adolescence, monsieur le juge. Ne nous emportons pas.
Jerry est alors interné pendant 8 mois. Il suit une scolarité normale, mais rien n'est vraiment fait pour qu'il ne recommence pas. Tous les diagnostics de l'époque disent que c'est un garçon normal qui n'a pas bien géré ses hormones, c'est tout. Pendant ces 8 mois, Jerry est décrit comme un fantôme, un solitaire. Il ne se fait pas d'amis et très peu de personnes se souviendront de son passage en psychiatrie. À sa sortie d'internement, il s'engage dans l'armée et ça va pas durer bien longtemps parce qu'il est victime d'hallucinations. Il dit à ses camarades qu'en pleine nuit, une jeune femme coréenne entre dans le baraquement pour venir abuser de lui dans son lit. Et il est tellement persuadé de vivre ces choses qu'il en parle à son supérieur. Une surveillance est mise en place, tout le monde voit bien qu'aucune femme coréenne ne rend visite à Jerry pendant la nuit et il est viré de l'armée parce qu'il fait flipper tout le monde. De retour chez ses parents, Jerry va vivre dans la chambre de son frère aîné qui, lui, est parti faire des études à l'université. Les parents Brudos ont conservé la chambre de leur grand-fils et se sont rapidement débarrassés de celle de Jerry pour gagner une pièce dans la maison. Donc, lorsque Larry revient pendant les vacances scolaires, Jerry doit dormir dans le hangar du jardin. Et rapidement, ses fantasmes reprennent. Jerry n'est suivi par personne, il est de retour dans un environnement qu'il connaît parfaitement et où il se sent en sécurité. Il est replongé dans son adolescence. Jerry se remet à sortir la nuit, voler des sous-vêtements et il passe un cap dans la violence. On retrouve dans les archives l'histoire d'une fille à cette époque qui a été suivie en pleine nuit par un homme. Alors qu'elle s'engageait dans une ruelle, celui-ci a continué de la suivre avant de lui sauter dessus pour l'étrangler et s'enfuir en lui ayant volé ses chaussures à talons. Ce soir-là, Jerry se couche avec ses belles chaussures. Ses obsessions reprennent.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jerry Brudos réussit tout de même à s'en sortir. À 22 ans, il trouve un job dans une station de radio locale et a même pour la toute première fois de sa vie une petite amie qui deviendra rapidement sa femme, Darcy Metzler, 17 ans, qui se sent en sécurité avec Jerry. C'est un type ultra possessif avec elle et elle se sent aimée. Pour Jerry, Darcy, c'est la femme parfaite. Il la décrit comme docile, soumise et obéissante et elle accepte de répondre à ses nombreux fantasmes. Il peut la prendre en photo, lui demander de se balader dans la maison en talons hauts. Le couple s'installe à Salem, dans l'Oregon, dans un coin très tranquille au numéro 707 de la rue Edina. C'est dans cette maison, disposant d'un grand garage, que Jerry Brudos va définitivement répondre sans aucune limite à tous ses fantasmes. Il est maintenant marié, va prochainement avoir 2 enfants, et il le sait. Il ne peut plus se permettre de se faire choper à nouveau. Alors, il va décider de faire taire définitivement ses victimes en prenant possession du gars dans cette maison disposant d'un grand garage que Jerry Schmar absolu. En ménageant ensemble au 707 de la rue Edina, le couple Jerry et Darcy va rapidement avoir un premier fils dont Jerry ne pourra pas assister à la naissance. Darcy refusant que son mari soit là pendant l'accouchement parce qu'elle veut pas que Jerry la voie en train d'être touchée par d'autres hommes pour faire sortir le bébé, ça la gêne. Cette première naissance à laquelle il ne peut pas assister va être un traumatisme pour Jerry. Comme lorsqu'il était enfant, il est rejeté, cette fois pas par sa mère, mais par sa femme qui ne veut pas de lui pendant l'accouchement. Alors, pour se sentir mieux, il se remet à porter des sous-vêtements féminins et passe un cap dans ses agressions puisque, désormais adulte dans la force de l'âge, Jerry n'hésite pas un soir à entrer chez une voisine pour lui voler ses talons. Il passe par la fenêtre discrètement, à l'époque les gens ont l'habitude de dormir la fenêtre ouverte quand il fait trop chaud, et commence à fouiller ici et là pendant que la femme dort. Sauf que celle-ci se réveille. C'est à ce moment précis que Jerry va passer un nouveau cap dans sa descente l'invincibilisation pour ne plus avoir peur d'aller encore plus loin lors de ses attaques. Quand la jeune femme se réveille, il sait que c'est trop tard. Elle a vu son visage, s'il s'en va en courant, il est foutu. Ou alors, il peut l'étouffer et espérer que le manque d'oxygène brouille un petit peu sa mémoire. Jerry se jette sur elle, l'étrangle de ses mains et, la voyant inerte, abuse d'elle. Cette horrible expérience libère définitivement le monstre qui sommeille en Jerry Brudos, en comprenant à quel point il est facile de faire perdre connaissance à quelqu'un et devant l'excitation ressentie face au corps inerte de sa victime, Jerry se dit en y repensant qu'un jour ou l'autre il recommencera forcément. Et ce jour arrive le 26 janvier 1968. Ce froid vendredi de janvier, Linda Swanson, 19 ans, est en train de faire du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies. Elle fait ce petit job payé une misère pour avoir un peu d'argent de poche et étant payée à la commission, elle toque absolument à toutes les portes qu'elle croise sur son chemin. Ce jour-là, elle arrive dans la rue Edina et s'engage dans la petite allée au numéro 707. Normalement, Linda n'aurait jamais dû aller vers cette habitation parce qu'à 7 heures, elle avait un rendez-vous avec un potentiel client qui avait demandé à avoir une présentation de ses encyclopédies, mais Linda se trompe d'adresse, toque au domicile des Brudos et c'est Jerry qui lui ouvre la porte. Tout de suite, la jeune femme flash dans le regard de Jerry. Elle est bien habillée, a mis ses belles chaussures, il sent sa pulsion monter, mais il ne sait pas vraiment comment faire. C'est la première fois qu'une jolie jeune femme se pointe d'elle-même comme ça chez lui.
Oui, je suis vraiment intéressé par tes encyclopédies. Viens, entre.
Linda hésite un peu. Jerry la rend mal à l'aise sur le moment. Il semble pas honnêtement intéressé par les encyclopédies, mais plus par elle. Mais bon, Linda a l'habitude des clients un peu lourds, vous imaginez bien mesdames, et elle suit donc Jerry. Linda entre dans le domicile des Brudos, mais Jerry ne se sent pas à l'aise ici au milieu de chez lui. Il n'est pas vraiment en sécurité, s'il veut tenter quelque chose, alors il emmène Linda avec lui dans son garage. La jeune femme le suit. Linda se pose dans un coin, commence à montrer ses petites encyclopédies à Jerry en répétant le discours qu'elle a appris par cœur, et Jerry fait semblant de s'intéresser. Oui, super celle-ci, et l'autre, elle parle de quoi ? Linda lui tourne le dos, en attrape une autre et se dit que c'est top. Finalement, Jerry lui pose plein de questions. Elle va sûrement conclure une vente, ça va lui payer un bout de son loyer et le mois se termine bien. Jerry abat une planche de bois sur le crâne de Linda qui s'effondre sur le sol complètement inconsciente, tellement le coup a été violent. Il referme en vitesse la porte de son garage et se met à étrangler pour être sûr que Linda ne se réveille jamais. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Jerry déshabille rapidement Linda Swanson et il le dira plus tard, à la vue de ses sous-vêtements rouges vifs, il est devenu complètement fou et a passé la nuit qui suit le meurtre avec le corps de la jeune femme, la prenant en photo, l'habillant de divers sous-vêtements qu'il avait conservés toutes ces années, même après son déménagement avec sa femme qui dort d'ailleurs dans la maison d'à côté. Ce jour-là, lorsque Linda ne rentre pas au bureau de sa société qui vend des encyclopédies, personne ne s'inquiète pour elle. La démission sans préavis, c'est super fréquent dans ce genre de job. Si elle ne revient pas rendre les encyclopédies, on lui prélève la somme due sur son solde de fin de contrat, et c'est tout. Sa famille proche, dont ses parents, vont bien évidemment signaler la disparition de leur fille le lendemain, en n'ayant toujours aucune nouvelle d'elle, mais l'enquête va tourner au fiasco. L'entreprise qui employait Linda n'a rien noté de sa tournée. Aucune adresse, aucun quartier, Linda gérait ça comme elle voulait, et prenait elle-même ses rendez-vous. Elle s'est volatilisée avec son petit carnet dans lequel elle notait les endroits de la ville qu'elle prévoyait de démarcher, et donc les enquêteurs n'ont nulle part où chercher, l'enquête devient rapidement un cold case. Mais là, je vais un peu vite. La nuit suivant le meurtre de Linda, Jerry comprend assez rapidement qu'il ne peut pas garder le corps comme ça au milieu de son garage. La pièce n'est pas du tout prévue pour ça, avec tout ce que ça implique. Les odeurs, les insectes, les animaux. Jerry doit se débarrasser du corps. S'il ne peut pas garder le corps en entier, Jerry va décider de conserver un souvenir de Linda. Il va utiliser une scie à métaux pour lui couper le pied gauche et va le placer dans un congélateur. Ensuite, il charge le corps de Linda à l'arrière de sa voiture. À 7h, alors que le soleil se lève tout doucement, personne ne voit Jerry partir discrètement. Il se rend au pont de Saint-Jean qui passe au-dessus de la rivière Willamette. Jerry attache le corps de Linda, le leste avec ce qu'il trouve dans son coffre et la jette alors qu'il vient de se débarrasser de sa toute première victime. Jerry n'est pas encore un tueur en série, mais il est sur la voie et personne ne l'arrêtera avant qu'il ne passe le nombre fatidique de 3 victimes. Dans les mois qui suivent le meurtre de Linda, Darcy, la femme de Jerry, va découvrir une étrange boîte à peine cachée dans la maison, avec des photos de femmes dans de drôles de positions prises avec un appareil Polaroid. La qualité est mauvaise, mais elle se dit que bon, son mari doit sûrement faire une collection un peu coquine. Darcy décide de ne pas lui poser de questions, sans se douter une seule seconde que sur les photos qu'elle voit apparaît Linda. Sans vie, manipulée par Jerry pour la prendre en photo dans diverses positions obscènes. Ces photos et ce pied congelé suffisent à Jerry pour se faire plaisir pendant un certain temps, jusqu'en novembre. Le 26, alors qu'il remonte l'Interstate 5 entre Salem et Albany, il croise la route de Jane Whitney, 23 ans, qui est en panne sur le bord de route avec deux de ses amis. Jerry s'arrête sur le bas-côté et propose à Jane de l'amener chez lui pour appeler une dépanneuse pendant que ses amis restent à côté du véhicule. Jane accepte et grimpe avec Jerry. Ses amis la laissent partir avec un parfait inconnu sans poser de questions. Le trajet se passe bien, Jerry et Jane font connaissance. La jeune femme explique qu'elle a 23 ans, qu'elle fait ses études à l'université du coin et qu'elle y allait justement avec ses deux amis, mais la voiture les a lâchés jusque-là. Jerry ne laisse rien paraître, mais il jubile. Jane, c'est sa victime parfaite, son fantasme ultime. Tout comme Linda, c'est une jolie jeune femme, étudiante, bien habillée, avec de belles chaussures. Il trouve rapidement un prétexte pour s'arrêter dans un endroit désert, là où la route est calme à 7 heures de la journée. Jerry dit à Jane que finalement, il a peut-être ce qu'il faut à l'arrière pour réparer la voiture. Jane attend et laisse Jerry se faufiler derrière elle. Elle entend un bruit de pantalon, comme si une ceinture en cuir était en train d'être manipulée. Jane ne se retourne pas. À ce moment-là, Jerry est en train de retirer sa ceinture dans le but d'étrangler la jeune femme. Il se met en position derrière elle et lui enlace le cou avant de serrer le plus fort possible. Jane tente de se débattre, elle donne des coups à gauche, à droite, mais Jerry est bien plus fort et plus lourd. La jeune femme perd connaissance, puis perd la vie asphyxiée. Jerry se précipite alors chez lui au numéro 707 de la rue Edina. Il se gare le plus proche possible de son garage pour y faire entrer le corps de Jane sans être vu du voisinage. Cette fois, il va décider de suspendre le corps à une poulie dans son garage. Me demandez pas pourquoi c'est son fantasme, il a envie de voir sa victime en l'air. Comme toujours, Jerry prend des photos et abuse du corps. Il comprend à ce moment-là que il aime trop ça pour s'arrêter, c'est trop facile pour lui et que s'il veut se sentir totalement en sécurité dans son garage, il doit installer un système d'ouverture. Il met donc un interphone sur la porte de son atelier pour que sa femme ne puisse plus entrer sans avoir à sonner pour lui demander de lever le verrouillage. Darcy Brudos ne posera pas plus de questions que ça à son mari, elle se dira juste que Jerry veut vaquer à ses occupations tranquillement et puis de toute façon, elle, ben elle a pas mal de choses à faire, elle doit s'occuper de la maison et des deux enfants du couple, puisqu'ils ont eu un deuxième fils, mais vous verrez que plus tard, la possible complicité de Darcy sera discutée. Jerry passe plusieurs nuits en compagnie du corps de Jane qu'il monte et décroche de la poulie à sa guise. Il va également mettre l'un de ses seins dans de la résine pour en faire une sorte de trophée. Une fois le corps trop abîmé, comme avec Linda, Jerry charge Jane à l'arrière de sa voiture et part la jeter dans la rivière en pleine nuit. L'enquête suivant la disparition de la jeune femme ne donnera rien. Jerry Brudos se sent maintenant en confiance, son mode opératoire commence à être rodé. Il enlève ou mène sa victime jusque chez lui et une fois dans le garage ou même dans sa propre voiture, il l'étrangle avant de la conserver plusieurs jours. Avec le système de sécurité qu'il a installé, plus besoin de se soucier d'une arrivée possible de sa femme. Jerry ne résiste plus du tout à ses pulsions. Ses deux premiers meurtres étaient des crimes opportunistes, il est tombé sur ses victimes comme ça par hasard. La troisième femme qui croisera la route de Jerry sera enlevée de force. Le 27 mars 1969, Karen Sprinkler, 18 ans, est repérée par Jerry alors qu'elle rentre chez elle après une après-midi dans une zone commerciale. Elle traverse la zone et passe par des endroits déserts là où les magasins sont déjà fermés. Jerry sort son arme et prend rapidement le contrôle de la situation. Il ordonne à Karen de monter dans sa voiture. L'adolescente s'exécute et monte avec Jerry qui la conduit rapidement chez lui et la pousse à l'intérieur de son garage. Ce soir-là, Karen sera forcée de répondre à toutes les exigences du pervers pendant qu'il prend des photos. Il la garde en vie plus longtemps que les autres, sa femme est absente, avant que ses mains ne s'abattent autour de son cou. Une fois de plus, Jerry abuse du corps et s'en débarrasse dans la rivière. Il prend une vie comme ça en un claquement de doigts, n'a aucune considération pour ses victimes. Il les considère comme des choses qui lui permettent juste d'assouvir ses fantasmes et les jette ensuite à l'eau. Jamais il ne garde très longtemps près de lui une victime de peur d'être surpris. On découvrira plus tard qu'il s'amusait également à infliger des chocs électriques au corps de ses victimes pour les rendre plus raides, pour qu'elles aient l'air plus vivantes pendant qu'il abusait d'elles et avoir une sensation de chaleur due à l'électricité. Le coup du câble électrique pour réchauffer le corps, c'est la première fois que je lis ça. Jamais testé perso. Réchauffer le... Pris dans une spirale de folie, Jerry ne va plus s'arrêter. La moindre jeune femme qu'il croise et sans personne autour, il va tenter de l'enlever. Ce sera le cas pour Sharon Wood, 24 ans, qui face au tueur se débat et réussit à s'enfuir. Gloria Smith, 15 ans, fera la même chose. Après ce double échec, Jerry rentre chez lui en panique, persuadé que l'on va réussir à remonter jusque lui. Il a agi à visage découvert. Si un portrait robot sort dans la presse, il est complètement foutu. Il ferme sa porte à double tour et attend. Mais ce soir d'avril 1969, personne ne vient. Alors, le lendemain, le 23, il repart en chasse. Jerry se rend dans une zone commerciale avec un faux badge de police et aborde Linda Sally, 22 ans, sur le parking du Lyold Center et lui dit qu'elle est soupçonnée de vol à l'étalage et qu'elle doit le suivre. Linda sait très bien qu'elle n'a rien volé, mais elle veut pas avoir de problème, donc elle monte dans la voiture de Jerry, qui la conduit à son domicile et lui demande d'entrer dans son garage pour lui lire les faits qui lui sont reprochés. Linda sera suspendue plusieurs jours à une poutre dans le garage, abusé, puis jeté à l'eau au même endroit où il a jeté précédemment toutes ses victimes. Jerry se sent invincible, jamais aucun corps à ce moment-là n'est remonté à la surface. Alors il se dit que vu que son mode opératoire est parfait et que de toute façon personne n'arrivera jamais à remonter jusqu'à lui, bah qu'il va pouvoir carrément contacter ses futures victimes pour leur donner rendez-vous plutôt que de s'embêter à aller traquer des femmes sur les parkings des centres commerciaux, etc., etc. Alors, il prend un bottin sur lequel on a une liste de numéros de téléphone appartenant à des étudiantes qui sont en études actuellement à l'université d'Oregon à 30 minutes à peine de route de Salem et il appelle des étudiantes pour leur donner rendez-vous. C'est ce qui marquera sa chute. Comme vous l'avez vu au début de cet HVF, il est signalé, identifié, puis formellement reconnu par Sharon Wood et Gloria Smith, dont les enlèvements ont tourné au fiasco. Et tout ça, ça s'emboîte assez bien par chance, puisque si Jerry n'avait pas décidé d'appeler lui-même les étudiantes, il aurait fallu bien plus de temps pour l'identifier et d'autres victimes auraient suivi. La suite va être assez rapide, Jerry Brudos décide de plaider coupable, aucun gros procès n'aura donc lieu. Il est inculpé de 3 chefs de meurtre prémédités, celui de Jane Whitney, Linda Sally et Karen Sprinkler. Il ne sera jamais condamné pour celui de
Linda Swanson, son corps n'ayant jamais été retrouvé et aucune photo d'elle ne sera identifiée dans le domicile de Brudos, Jerry s'en était certainement débarrassé après que sa femme soit tombée dessus, souvenez-vous. Condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Jerry va être régulièrement battu en prison par ses co-détenus. Dans sa cellule, on retrouvera régulièrement des catalogues de chaussures pour femmes. Jerry Brudos demandera plusieurs fois une libération conditionnelle en 1995 puis 1999, mais celle-ci sera à chaque fois rejetée du fait de sa dangerosité. L'État d'Oregon va accuser Darcy Brudos de complicité, mais aucune preuve formelle ne sera trouvée contre la femme de Jerry. Darcy dira simplement qu'elle n'a rien vu et qu'à aucun moment elle ne s'est doutée que son mari était un tueur en série. Après avoir changé son nom et celui de ses enfants, Darcy a déménagé dans un endroit inconnu, puis recommencé sa vie. Même si elle était consciente de certaines des habitudes étranges de son mari, comme quitter la maison tard le soir et collectionner des photos de femmes nues. Officiellement, Darcy n'était donc au courant de rien et elle est restée libre. Après près de 4 décennies en prison, Jerry Brudos est décédé le 28 mars 2006 des suites d'un cancer du foie. Il était à l'époque le détenu purgeant la plus longue peine dans une prison de l'Oregon avec 37 ans derrière les barreaux. Jerry Brudos n'a jamais exprimé aucun remords vis-à-vis de ce qu'il a fait. Il a simplement déclaré « Je tenais à ses filles autant que je me souciais de ce morceau de papier froissé. » Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout, mettez chaussures en commentaire, puisque, ben voilà, le truc de Jerry, ça a été les chaussures jusqu'au bout, et même en prison, il avait des magazines avec des chaussures de femmes pour repenser et refantasmer sur ses crimes. C'était Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'année. Quant à nous, on se voit vendredi prochain normalement. Les HVF ne prennent pas de pause cette année, pas pour l'instant en tout cas, c'est pas prévu. Merci d'avoir été là tout au long de l'année 2023, ça a été une superbe année pour la chaîne, mais on en reparlera sûrement en détail dans une prochaine FAQ. Merci encore, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Bonne fin d'année à tous, et puis bye!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.